France 24 et RFI présentent Ici l'Europe. Caroline de Camaret, Valérie Gasse.
Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 et Radio France Internationale pour le grand débat des élections européennes, un scrutin qui a lieu dans 2 mois à peine, le 9 juin. Attention, le 8 juin dans certains territoires comme la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Polynésie française. En tout cas, ne manquez pas la date et pour éclairer votre décision, nous avons réuni les principales têtes de liste françaises à Bruxelles, à 2 pas de l'hémicycle où tous espèrent envoyer un maximum de députés européens. Il y en a 81 à élire côté français.
Nous regrettons bien sûr l'absence de la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui n'a pas accepté notre invitation et qui est représenté aujourd'hui par le candidat en 3e position sur sa liste. Toutes les autres têtes de liste sont présentes et nous les remercions.
L'immigration est évidemment au cœur de la campagne. On vous donne un chiffre de migration dans l'Union européenne en 2023. 380 000 entrées irrégulières selon Frontex, un chiffre qui sera en hausse par rapport à l'année d'avant de 17%, mais qui n'a quand même pas grand-chose à voir évidemment avec la grande crise migratoire de 2015. Raphaël Glucksmann, votre Europe, sur ce sujet, elle veut faire quoi ? Un pacte migratoire peut-être, mais différent de ce qui est en train de se faire ?
Différent, oui. Notre Europe, notre projet, c'est de mettre fin à la fois à l'indignité et au désordre. L'indignité, c'est la mort de 50 000 personnes en Méditerranée. C'est la transformation de nos mers en cimetières. C'est des êtres humains qu'on condamne à vivre dans nos rues par hypocrisie. Le désordre, c'est ce qu'on appelle le système de Dublin, qui fait peser toute la responsabilité sur les pays d'entrée. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est une véritable politique migratoire européenne, mais qui rompe avec l'hypocrisie, qui rompe avec les slogans sur l'immigration zéro, qui admette les faits. Et les faits, c'est que nous avons besoin de voies légales d'immigration. Donc notre Europe, elle prend à bras le corps cela. Elle impose la cohérence dans l'asile, dans la répartition, et elle impose aussi eh bien, les faits, c'est-à-dire le besoin d'immigration légale. Et ce que nous proposons, ce n'est pas simplement de respecter la dignité humaine, de respecter les conventions internationales que nous avons signées, de respecter le droit, c'est aussi de respecter les besoins de nos sociétés, de nos économies, de nos démocraties. Et ce que nous voulons, c'est reprendre la maîtrise. Le problème de ce pacte asile-immigration, c'est qu'en réalité, il ne répond à aucune des questions, ni à l'indignité, ni au désordre. Et que dans 2 ans, dans 3 ans, nous serons à nouveau amenés à discuter d'un pacte sur la migration.
Fabrice Leggeri, rappelons que vous avez démissionné en 2022 de l'agence Frontex, qui faisait l'objet d'une enquête de l'Office européen de lutte antifraude pour des renvois illégaux de migrants. Alors aujourd'hui, ORN, quelles solutions migratoires préconisez-vous pour l'Europe ?
D'abord, il n'y a pas eu de renvois illégaux de migrants. Bon, ça, c'est une,
c'est faux.
Simplement,
c'est investigué par l'OLAF, en tout cas. Hein. Voilà.
Et la conclusion a été que tout cela est faux. Bon, maintenant, parlons des propositions. C'est ça qui intéresse les auditeurs. En réalité, le pacte asile-migration ne résout rien. C'est une tromperie politique et inhumaine. C'est une tromperie politique parce qu'en fait, ça consiste à légaliser l'arrivée illégale de pauvres victimes des trafics d'êtres humains qui mettent leur vie en danger à travers la Méditerranée ou à travers le Sahara. Et ensuite, c'est une tromperie politique parce que finalement, les États sont dépossédés par la Commission de leur souveraineté dans la matière migratoire. C'est inhumain parce que la vraie solution, ce serait de permettre à des personnes en besoin de protection internationale de faire leur demande d'asile dans des consulats de pays européens hors d'Europe, au plus près de la zone dans laquelle ils sont en danger, de manière à éviter que ces personnes tombent entre les mains de groupes criminels et mettent leur vie en danger. C'est ça l'humanité.
Monsieur Leggeri,
Marie Toussaint,
c'est vous qui avez mis la vie de personnes en danger. Pendant que vous étiez à la tête de Frontex, ça a été 10 000 personnes qui ont trouvé la mort. Qu'est-ce que vous venez nous raconter ici en disant qu'il y a des gens qui peuvent demander l'asile alors qu'ils sont persécutés dans des pays comme l'Afghanistan, comme l'Irak ou la Syrie ? La réalité, c'est que ce que vous faites, c'est que vous les mettez encore plus en danger, monsieur Leggeri. C'est tout ce que vous faites. Et quand vous appelez Frontex une super ONG qui vient sauver les migrants en mer, vous parlez de 10 000 personnes, 10 000 vies humaines sous votre direction, 30 000 en réalité depuis la création de Frontex. Ce que vous faites est criminel. Ce que vous faites est criminel et ce que vous voulez, c'est juste qu'il y ait encore plus de personnes qui trouvent la mort dans la Méditerranée. C'est tout ce qui est sous votre politique et sous la ligne que vous défendez avec le Rassemblement national.
Manon Aubry.
Je vais même aller plus loin. Monsieur l'Égérie, j'ai du mal à savoir comment vous arrivez à dormir la nuit. Est-ce que vous savez combien de morts exactement, combien de personnes sont mortes en mer Méditerranée pendant que vous présidiez Frontex?
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que 300 000 personnes ont été sauvées par Frontex pendant que j'étais directeur de l'agence.
25 000 personnes, monsieur l'Égérie. 25 000 personnes sont mortes sous votre direction quand vous étiez à Frontex.
300 000 personnes ont été sauvées sous ma direction.
Monsieur Frontex,
bien sûr,
vous avez du sang sur les mains.
Bien
vous
sûr,
avez
les
du sang sur les mains.
Renvoyés.
Et la réalité, c'est
de la diffamation. Faites attention, madame.
Et je le dis et je le redis. Monsieur Frontex, vous avez dû démissionner. Monsieur Frontex, lapsus révélateur. Monsieur l'Égérie, vous avez dû démissionner de Frontex parce qu'il y a une enquête pour plusieurs raisons. À la fois pour mauvaise gestion, pour refoulement illégaux. Vous renvoyez des migrants mourir en mer Méditerranée vers des pays comme la Libye qui ne sont absolument pas des pays sûrs. Et puis, vous avez menti à plusieurs reprises. On est ici au Parlement, devant ce Parlement européen. Donc, monsieur l'Égérie, vous êtes non seulement un menteur, mais vous êtes aujourd'hui un criminel. Et je pense que vous devez faire face à votre responsabilité. Parce que, vous savez, ces personnes ne quittent jamais leur pays par gaieté de cœur. Monsieur l'Égérie, si vous êtes français, est-ce que vous quitteriez la France si vous n'aviez pas des raisons de la quitter, si votre pays n'était pas en guerre? Qu'allez-vous dire à ces jeunes Syriens qui fuient l'enrôlement obligatoire dans l'armée de monsieur Bachar el-Assad, pour ne prendre que cet exemple? Répondez et ne fuyez pas vos responsabilités, comme le fait monsieur Bardella.
Madame Aubry, tout cela est faux. 300 000 personnes ont été sauvées en mer Méditerranée alors que j'étais directeur de Frontex. S'il y a malheureusement des personnes qui se noient dans la mer, c'est parce que des groupes criminels mettent les migrants sur des bateaux et parce que des ONG irresponsables sont complaisantes et leur vantent l'Eldorado
européen. Vous parlez des ONG de sauvetage en mer, monsieur l'Égérie. Vous parlez des ONG de sauvetage en mer, les personnes qui vont sauver des personnes. Et vous accusez les ONG qui vont sauver les personnes qui perdent la vie en mer de leur porter atteinte, de porter atteinte à leur vie. C'est fou.
Valérie Ayé, on voit que le débat s'anime tout de suite sur le pacte asile-immigration. Vous le soutenez. En quoi constitue-t-il une avancée?
Je le soutiens, ce pacte asile-immigration, parce qu'il va nous permettre de mieux contrôler nos frontières, de mieux gérer les flux migratoires irréguliers avec humanité et efficacité. Et au fond, de ne pas laisser les réseaux de passeurs décider à notre place. Et j'assume ce vote et je vois bien les stratégies électorales des uns et des autres autour de cette table ce soir. L'extrême droite, évidemment, vous ne pouvez pas soutenir ce texte parce que répondre aux défis migratoires, ce serait assécher votre carburant électoral. Monsieur Bellamy, à droite, vous refusez de soutenir ce texte parce qu'au fond, vous courez toujours plus derrière l'extrême droite et malheureusement, on en a la démonstration supplémentaire ici. Et la gauche, avec la gauche, on est toujours dans la naïveté et dans l'inaction. Monsieur Glucksmann, vous prétendez que vous ne pouvez pas soutenir ce texte parce qu'il serait déshumanisant pour les migrants. Mais qu'est-ce que vous dites à vos collègues socialistes espagnols, à vos collègues socialistes allemands qui votent ce texte et qui le soutiennent? Enfin, est-ce que vous leur dites qu'ils sont devenus de méchants réactionnaires? Non, vous ne leur dites pas ça, tout simplement parce que si vous ne votez pas ce texte aujourd'hui, c'est pour des raisons électoralistes nationales. Non. Parce que vous savez pertinemment que si vous votez ce texte, vous allez éclater la NUPES, vous allez éclater votre liste NUPES. Votre liste aujourd'hui, c'est une liste, votre numéro 3, M. Jouvet, qui a négocié l'accord de la NUPES et qui était tenant d'une liste européenne à la NUPES. Votre numéro 14,
il n'y a pas de liste
Kérich,
pour nos téléspectateurs. Il n'y a pas de liste de gauche puisque vous êtes tous
Permettez-moi de terminer. Oui. Votre numéro 14 qui se réjouissait d'une cohabitation avec M. Mélenchon. Madame Diop, qui au lendemain des attaques du 7 octobre se réjouissait encore de cette collaboration. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas voter ce texte pour des raisons de politique nationale et non pas sur des raisons de fond. Vous le savez très bien, vous êtes l'arbre qui cache la NUPES. Ayez au moins le courage de cette position.
Alors, écoutez,
Raphaël Glucksmann.
Écoutez-moi, ça fait 5 ans que je fais de la politique. Et je n'ai jamais été pris à défaut sur mes convictions et sur mes principes. Si je ne vote pas ce texte, contrairement à votre tirade que vous avez appris par cœur pour enrayer votre chute, si je ne vote pas ce texte, c'est parce que je l'ai lu dans le détail, en me posant deux questions, deux simples questions. J'espère que vous l'avez lu et que vous vous êtes posé les mêmes questions. D'abord, est-ce que cela répond à l'indignité? Et non, cela ne répond pas à l'indignité. Il n'y a rien sur le fait de sauver les gens en mer. Il n'y a rien qui permette de sauver l'Europe de cette indignité. Et deuxièmement,
Raphaël Gouchel,
la deuxième question,
très
c'est très important parce qu'il y a eu une tirade à prise par cœur. Moi, maintenant, j'aimerais vous répondre sur le fond. Et deuxièmement, est-ce que ça mettra fin au désordre? Est-ce que ça nous sort du système dit de Dublin que nous connaissons tous ici et qui crée le chaos en
Europe?
Voilà,
le retour au pays.
Et la réponse est non. Et donc, quand il y a une double réponse non,
aux questions que je me pose, parce que moi, je n'ai jamais voté contre
vous
ma conscience.
Vous allez prendre beaucoup trop d'argent.
Eh bien, nous avons des débats et il y a d'autres délégations qui votent.
C'est inaudible. C'est inaudible.
Nous avons des points de vue différents. Ça arrive. Je n'ai traité personne de méchant réactionnaire. Ça, c'est dans les éléments de langage.
Mais
je n'ai traité personne ici de méchant réactionnaire.
Monsieur Bellamy. Alors, votre parti et le PPE insistent sur la rétention, par exemple, des migrants par les pays tiers. Et ça, ce n'est pas toujours respectueux, finalement, des droits de l'homme dans ces pays. Quelle politique européenne en matière de migration vous voulez vraiment ?
Le défi pour l'Europe aujourd'hui, c'est de retrouver la maîtrise de ses frontières extérieures. Et quoi qu'en dise la gauche, qu'on vient d'entendre à nouveau répéter ces vieilles lubies, en réalité, ce qui cause des morts en mer Méditerranée, ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens meurent sur la route de l'Europe, ça n'est pas que l'Europe a des frontières, mais c'est qu'elle n'en a pas. C'est parce que nous ne savons pas maîtriser nos frontières
déjà
que des gens vivent avec cette idée.
Bellamy.
Le monde entier vit avec l'idée que celui qui arrive à mettre le pied illégalement sur le sol européen a toutes les chances d'y rester durablement. Et c'est cette idée-là qui crée des drames partout, à l'extérieur de nos frontières, mais aussi dans nos pays. Parce qu'aller demander aux citoyens de nos pays s'ils vivent bien la situation d'impuissance migratoire dans laquelle se trouve l'Europe. Je suis heureux que les gens qui nous écoutent aient eu un petit aperçu des débats que nous aurons vécu au cours du dernier mandat, et notamment concernant l'agence Frontex. Nous avons défendu le fait que l'agence Frontex devait avoir un mandat clair, celui d'une agence de garde-côte et de garde-frontière. Et vous voyez ici que la gauche, et les macronistes ont fait partie de cette coalition, refusent qu'un garde-frontière défende les frontières, et même condamnent un garde-frontière quand il défend les frontières. Et M. Bardella n'est pas là pour vous défendre. M. Légéry, c'était aussi le cas pendant ce mandat. C'est nous qui avons assumé de défendre le mandat de l'agence Frontex au moment où le Rassemblement national voulait la disparition de cette agence quand vous en étiez le directeur exécutif. Nous disons simplement qu'effectivement, l'Europe doit faire en sorte que demain, quelqu'un qui cherche à rentrer illégalement sur le sol européen soit retenu à l'extérieur de l'Europe pour que la procédure d'asile soit instruite à l'extérieur des frontières. C'est la condition pour sortir du désordre que vous évoquiez, Raphaël Glucksmann. Mais c'est dommage que quand nous avons proposé de renforcer nos frontières, quand nous avons proposé, par exemple, avec le PPE, avec la droite européenne, que le budget européen puisse financer des infrastructures physiques de protection des frontières extérieures de l'Europe, Valérie Ayé s'y est opposée avec virulence, les socialistes, les Verts, toute la gauche a critiqué cette proposition qui est pourtant nécessaire.
Marion Maréchal, c'est votre tour dans ce débat. Qu'est-ce qui vous différencie en fait du Rassemblement national et des Républicains sur cette question migratoire ?
Déjà, dans quel contexte avons-nous ce débat ? C'est-à-dire que là, à l'heure où je vous parle, l'État islamique a menacé de s'en prendre à la Coupe d'Europe de football. Il y a quelques jours de cela, les services de renseignement intérieur français ont annoncé qu'il pourrait y avoir une menace d'infiltration de djihadistes parmi les clandestins qui aujourd'hui entrent en Europe. Donc il n'est pas utile de rappeler la menace sécuritaire que fait peser aujourd'hui une immigration clandestine incontrôlée, au-delà évidemment de la menace culturelle, identitaire et économique qui pèse aujourd'hui sur notre continent. Donc moi je considère que le rôle de l'Union européenne aujourd'hui, c'est de protéger les Européens. Et si on veut à la fois d'ailleurs sauver des vies en Méditerranée et protéger les Européens, la réponse est une politique de dissuasion et de fermeté. La réponse est le modèle australien du No Way qui dissuade dans les pays d'origine les personnes de venir, qui disent que si jamais il y a une entrée clandestine, il n'y aura jamais de régularisation, qui font des centres de rétention à l'extérieur de leurs frontières, en l'occurrence en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui doit être un modèle.
Mais au-delà de ça... Donc vous voulez qu'on fasse finalement des grands accords avec les pays extérieurs ?
Il faut par ailleurs des accords avec les pays de départ, ce qui est en train d'ailleurs de réussir à faire Madame Giorgia Meloni, malgré l'opposition des macronistes et malgré l'opposition de la gauche et avec des résultats certains. Mais il faut aussi réformer Schengen. Il faut que la libre circulation dorénavant soit réservée aux Européens et non aux personnes extra-européennes. Il faut également un blocus naval européen sur le modèle de l'opération Sophia qui a été abandonnée. Il faut aussi une réforme du droit d'asile. Je regrette que personne n'en parle parce qu'aujourd'hui nous avons un droit d'asile beaucoup trop large et beaucoup trop laxiste. Et
donc, Ce sont des conventions internationales.
Et si nous mettons... Oui, mais ça relève en l'occurrence aussi du droit européen et donc il ne faut pas avoir davantage de transferts de souveraineté vers l'Union européenne, mais il faut que là où l'Union européenne agisse, elle agisse avec la logique permanente de la protection de nos frontières, ce qui n'a pas été le cas évidemment dans les dernières décennies.
Léon Desfontaines, au Parti communiste, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe sur la question migratoire ? Est-ce que vous êtes d'accord d'ailleurs avec ce qui vient d'être dit par Marion Maréchal ?
On le voit depuis le début du plateau, aujourd'hui on essaye de nous faire croire que le débat se résumerait autour de deux positions. D'un côté l'extrême droite qui propose zéro immigration, qui prend d'ailleurs pour exemple Giorgia Meloni comme vient de le faire Madame Maréchal. Giorgia Meloni qui a été élue en disant qu'elle installerait un grand blocus maritime en Méditerranée, qui est aujourd'hui un appel à l'Union européenne et qui propose de régulariser massivement des travailleurs sans papier. Parce que de toute façon, l'immigration, il y en aura. C'est un phénomène social. La question, c'est comment on gère. De l'autre, on entend des gens qui nous disent qu'il faut supprimer les frontières. Mais sauf preuve du contraire, un État sans frontières, ça n'existe pas. Les frontières, elles sont là, certes pour les personnes, mais la droite a tendance à l'oublier, aussi pour les capitaux et pour les marchandises. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit accueillir avec humanité et fraternité, et que la question fondamentale sur l'immigration, c'est la question de l'intégration, permettre à l'ensemble des personnes qui fuient la guerre, qui fuient la misère, qui viennent sur le territoire national, de pouvoir devenir de véritables Français. Et donc, il faut mettre en place des politiques d'intégration. Je crois profondément à l'intégration par le travail. Et notamment, c'est pour cela qu'on avait défendu la régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papier, pour que l'ensemble des travailleurs sur le continent, sur le territoire national, puissent bénéficier des mêmes droits que l'ensemble des autres travailleurs. Je crois aussi à la nécessité d'investir massivement dans des services publics permettant justement d'apprendre notamment le français, de permettre d'offrir une formation pour permettre justement de créer des citoyens quasiment à part entière. Et le sujet qui est complètement éludé et éclipsé dans ce débat, c'est les raisons pour lesquelles des personnes sont obligées d'émigrer de leur territoire. Tout d'abord, premièrement, parce qu'il y a la guerre. Et en l'occurrence, la France a une partie de responsabilité lorsqu'elle vend ses armes à des pays qui multiplient les guerres et les conflits partout, notamment au Proche-Orient. Deuxième sujet, c'est sur la question de la misère. Pourquoi des gens fuient, par exemple, le Niger ? Le Niger a un taux d'électrification d'à peine 14%. Comment voulez-vous permettre d'offrir un avenir à des gens qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès à l'eau courante, qui n'ont pas accès à une université, à une qualité de soins digne de ce nom ? Eh bien, il faut engager massivement des moyens pour permettre une aide réelle à la coopération pour ces États.
Marie Toussaint, on vous a entendu interpeller Fabrice Leggeri, mais sur la problématique de l'immigration et de l'Europe, qu'est-ce qu'elle t'a dans les verres ?
Oui, mais on a bien entendu l'extrême droite pousser pour toujours moins d'immigration, ce fantasme d'une Europe de murs et de barbelés qui ne laisserait plus passer personne. Et je vais rebondir sur ce que vient de dire M. Desfontaines. Moi, je veux dire trois choses. La première, et je reprends les mots ici du poète Edmond Haraucourt, c'est que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Et pour tout le monde, partout à travers la planète, on ne quitte pas sa terre, son foyer, sa famille par plaisir. Et donc oui, il faut changer notre politique. Monsieur Desfontaines a parlé du Niger, on pourrait parler du Sénégal, où depuis des années, la pêche industrielle européenne ou chinoise d'ailleurs pille la pêche artisanale et prive les pêcheurs de sources de revenus. Donc il nous faut changer cela. Il nous faut aussi travailler à l'intégration. Je suis d'accord. Et pourquoi pas suivre au niveau européen les processus d'intégration ? On a réussi à le faire avec les Ukrainiens et les Ukrainiens. Pourquoi ne réussirons-nous pas avec le reste des demandeurs d'asile ? Et puis la troisième chose, c'est la question de la dignité. C'est la question de la dignité. Nous avons besoin d'un pacte migratoire qui soit juste et qui soit digne. Ça va en concordance avec les valeurs de l'Union européenne, les raisons pour lesquelles nous avons fondé ce projet. Ça veut dire des fois sur illégal, ça veut dire sauver les personnes en mer. Mais là, j'aimerais me tourner vers vous, Madame Ayer. Je n'arrive pas à croire que, obnubilée par votre course à l'extrême droite, dans la chasse de l'étranger, dans le rejet de l'autre, vous en veniez à bafouer plusieurs conventions internationales sur les droits de l'enfant. Parce que ce pacte migratoire, il va permettre de détenir les enfants, de les mettre dans des centres de rétention. Tout le monde a dit qu'il ne fallait pas le faire. Le Haut Commissariat pour les réfugiés, c'est vrai.
Réponse
la Convention internationale pour les droits de l'enfant. Attendez, je n'ai pas fini. L'UNICEF,
parce
des
que
médecins.
Vous êtes déjà en train de
déborder. Et vous allez ficher,
bord,
vous allez ficher les enfants à partir de 6 ans. Vous allez prendre leurs empreintes digitales et les placer aux côtés des personnes pour chasser pour terrorisme.
Réponse rapide
vous de naïveté,
Valérie.
Vous parliez de naïveté, Madame Ayer, mais moi, je ne vois pas en quoi un enfant de 6 ans, un enfant de 7 ans, un enfant de 8 ans constitue des menaces pour l'Union européenne. Et je crois qu'au contraire, on bafoue nos valeurs à mener cette politique.
Moi, je crois fondamentalement qu'avec vos positions de l'inaction et de la naïveté, le statut...
La protection des enfants, c'est de la naïveté.
Non, c'est le statut quo aujourd'hui
des enfants, de la
qui génère des drames en Méditerranée, allez. Qui gère des drames pour les enfants aux frontières de l'Union européenne. Il faut les accueillir, leur permettre, et d'ailleurs les ONG, ça a
mais
été négocié par nos partenaires.
Nos ONG, les mettre dans des
nos partenaires, dans la négociation, on négocie que les ONG puissent avoir un rôle majeur pour accompagner les enfants et les familles. Je le redis, le statu quo, c'est des drames supplémentaires pour les enfants et pour les familles,
et
notamment en Méditerranée. La solution, c'est un meilleur accueil, un meilleur accompagnement.
C'est un sujet très, très, très passionnant, l'immigration.
Merci. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce débat RFI et France 24.
Vous restez bien sûr sur nos antennes pour suivre la campagne des européennes. Merci à vous tous d'avoir participé et de nous avoir suivis.